BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. Cette semaine, nouveau protocole dans les entreprises. C'est reparti pour un tour de vis sanitaire. C'est dur, 2 à 3 jours de télétravail par semaine et la fin des moments de convivialité. On va disséquer aujourd'hui la stratégie de ressources humaines de Conto avec sa DRH Sarah Ben-Halel. Et puis on va parler santé mentale. Cette entreprise de plus de 1000 salariés sur 10 a une hotline. On ne dit pas d'ailleurs hotline, on dit ligne d'écoute. Comment ça fonctionne? On va poser la question à Camille Puech, CEO de Cali Social. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH de Conto. Bonjour Sarah Ben-Halel, vous êtes la DRH de Conto, établissement de paiement réglementé. En gros, un compte pour les TPE-PME, lancé en 2016. Succès absolument fulgurant. On va parler de la manière dont vous intégrez les tonnes de talents qui viennent travailler avec vous. Mais avant, le gouvernement a annoncé un nouveau protocole sanitaire cette semaine. 2 à 3 jours de télétravail, la fin des moments de convivialité. Vous avez tout annulé?
C'est un crève-cœur, mais oui, on a communiqué ce matin aux équipes qu'on annulait tout. On a attendu le dernier moment pour le faire. On espérait, parce qu'on avait mis un protocole sanitaire en place hyper strict, qu'on puisse maintenir les événements. Mais malheureusement, on suit les règles à la lettre et donc on annule tout.
Ça, c'est presque plus dur que les 2 à 3 jours de télétravail.
Oui, complètement. Aujourd'hui, Conto, on offre 2 jours au minimum de télétravail par semaine. Donc, c'est pas du tout un changement dans les habitudes de travail. C'est vraiment plus sur les rassemblements, la création de notre culture. On va en parler, mais on accueille beaucoup de monde tout le temps. Et en fait, ces moments-là, ils sont essentiels pour que les gens se retrouvent, échangent, apprennent à se connaître, partagent les mêmes valeurs, etc.
Donc, sur l'intégration de nouveaux talents, l'onboarding, clairement, la fin de ces moments de convivialité, même si ça va peut-être reprendre en janvier, c'est quand même un problème.
L'onboarding, on s'est adapté. Quand il y a eu les confinements, on a fait 100% de nos onboardings en télétravail. Donc, on s'est digitalisé 100% de nos réunions, y compris avec les nouveaux. Quand il a fallu faire livrer les ordinateurs, on les a fait livrer, etc. Donc, on trouve toujours des solutions. Après, on sait que ce n'est pas du tout vécu de la même manière. Pour prendre le pouls très régulièrement auprès des équipes, les gens qui passent 2 semaines d'onboarding, même pour les internationaux, qui viennent en France spécifiquement pour les onboardings. Voilà, c'est pas la même expérience.
Une entreprise, je le disais, créée en 2016. Vous avez plus de 450 employés. Ça fait beaucoup, ça fait plus de 100 par an. Vous allez rester sur ce même rythme de croisière?
On va, je pense, en 2022, doubler les effectifs. Donc, les choses vont continuer à s'accélérer chez Conto.
Pour vous, c'est quand même un sacré défi en termes de DRH. Ça veut dire que vous connaissiez quasiment tout le monde. Là, ça devient carrément compliqué. La culture de l'entreprise, elle change aussi avec cette masse qui est différente. Comment vous essayez de garder la culture de départ?
Alors, il y a plein de choses qui existent. C'est sûr qu'il faut passer le relais. Je connaissais tout le monde. J'ai recruté les premiers 100 collaborateurs chez Conto. Moi, je suis chez Conto depuis 4 ans. Donc, en plus, j'ai eu la chance vraiment de vivre chacune des étapes. Aujourd'hui, on met plein de choses en place. Déjà, on essaie de marquer dans le marbre ce qui nous caractérise. Et ça, ça avait été fait dès le début chez Conto. Établir nos valeurs, y réfléchir, etc. Puis après, les transmettre le plus possible. Et puis, on les vit après au quotidien. On essaie de créer des moments de convivialité et des moments de rassemblement. On l'a très bien fait de manière digitale au moment du Covid. On le fait quand c'est possible de visu. Voilà, il y a plein de rituels qui existent dans les équipes. Et puis, il y a quelque chose qui vraiment distingue la culture de Conto, je pense, par rapport à plein d'autres startups de la place aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la Conto Way.
C'est quoi la Conto Way?
Alors la Conto Way, en fait, c'est une méthodologie de travail qui est vraiment propre à Conto, qui a été inspirée du Lean Management. Ouais. Donc le Lean, ça vient du milieu industriel. Et l'idée, c'est...
Faire mieux avec moins.
C'était en tout cas faire mieux. Comment on arrive à produire mieux, à
être
exactement, exactement, tout à fait. Et donc en fait, on est parti du principe que, évidemment, l'hypercroissance qu'on anticipait fait tout au début de Conto pouvait être un facteur limitant à la culture, à l'efficacité, à la productivité, à l'engagement aussi des collaborateurs. Donc très vite, on a pris le sujet en main en se disant, il faut qu'on travaille sur comment on va réussir à grandir sur tous les plans. Et donc, on s'est inspiré de cette méthodologie pour en fait établir des façons de travailler via des rituels, via des process spécifiques pour permettre à tous nos collaborateurs de s'améliorer dans leur quotidien.
Alors, par exemple, c'est quoi, vous dites, avec des rituels spécifiques?
Par exemple, alors on a des rituels, par exemple, de se voir tous les matins et de réfléchir à quelles sont les priorités de la journée, vraiment sur le court terme, pour être sûr qu'on soit aligné. Il y a travailler sur, en fait, comment on arrive visuellement à s'accorder sur quelles sont les priorités et ce qu'on est sûr d'être bien aligné tous et avancer dans le même sens. C'est de travailler sur ce qu'on appelle du One Piece Flow. Donc, en gros, on gère un projet après un projet pour être sûr de pouvoir... Ça, c'est dans un monde idéal. Ouais. Évidemment, je ne vous cache pas que dans la réalité, on a beaucoup de choses qui émergent dans l'opérationnel. Mais en tout cas, on essaye de focaliser notre énergie et nos ressources sur des projets qui viennent s'enchaîner les uns après les autres pour pouvoir garder un maximum de concentration. Et il y a vraiment cette dynamique, je pense que le plus important, c'est cette dynamique d'amélioration continue. Donc ce qu'on fait, c'est que quand il y a un problème, quand on estime qu'on a fait une erreur, qu'on n'a pas bien fait, on s'arrête, on se pose et on réfléchit tous autour de la table pour savoir comment on peut s'améliorer et comment on peut changer les choses. Et donc ça nous permet en fait en continu de changer la façon dont on travaille chez Conto et d'améliorer nos process, nos outils, nos
standards. Et vous n'êtes pas du coup dans la surcommunication ?
Au contraire, je pense qu'on ne le communique pas assez. C'est-à-dire qu'on doit beaucoup expliquer aux candidats que ça fait partie de la culture de la boîte, que les gens sont formés en interne et que d'ailleurs on s'améliore sur ce sujet. On a recruté quelqu'un qui s'occupe de la formation interne de 100%. Donc l'objectif en 2022, c'est vraiment que 100% de nos Contoers soient formés sur la Contoway et sur ses méthodologies de travail. Non, je pense qu'on pourrait encore plus le valoriser si en tout cas on recherche, parce qu'on sait que c'est la guerre des talents depuis pas mal d'années, mais encore plus en ce moment. C'est quelque chose qui singularise vraiment la culture de Conto.
Vous qui êtes dans une entreprise où il y a tout à construire, enfin vous avez pris depuis le départ, vous dites, vous dans votre équipe RH, c'est quoi la priorité qu'il vous faut aujourd'hui à vos côtés pour justement gérer cette hypercroissance ?
On a vécu des phases. Ma première phase, ça a été de me concentrer sur le recrutement. Et évidemment, aujourd'hui, c'est 2/3 de l'équipe RH. Hein, on est 35, ouais. Donc je vous laisse imaginer la taille de l'équipe recrutement. Ensuite, ça a
vous
été vraiment...
35 là dans
35
l'équipe RH.
En RH.
C'est,
ouais.
C'est beaucoup, même pour une entreprise
c'est
de 450
beaucoup.
Personnes.
C'est beaucoup, mais c'est ce qui... C'est... On va certainement doubler, nous aussi, en 2022, pour pouvoir accompagner les équipes. Et parce qu'on sait que tous les sujets RH, humains, sont clés pour être engagés, pour retenir nos talents, etc. Donc on investit au maximum sur ces sujets-là. Mais pour revenir du coup sur le sujet, il y a eu la phase vraiment recrutement, il y a eu la phase comment on accompagne après toute l'expérience collaborateur. Et là aujourd'hui, je suis plus dans une phase de comment j'arrive à m'entourer d'experts sur les sujets. Alors on a des stratégies de rémunération qu'on a construites depuis le début, mais maintenant il faut aller beaucoup plus loin parce qu'on a des enjeux sur l'international, on a des niveaux de poste très différents, des nouveaux postes.
Donc c'est là que vous commencez un peu à penser à long terme en fait.
Exactement.
En gestion de carrière, etc.
Complètement.
Ce que vous n'aviez pas pu faire au début, ouais. Où il fallait amasser des gens en fait.
Exactement. Là par exemple, aujourd'hui, on commence à réfléchir à très bien, on a réussi à promouvoir des gens. 50% des managers chez Conton sont issus de la promotion interne, ce qui est super. Donc ça, on sait aussi l'expliquer à nos candidats qui vont nous rejoindre. Vous pouvez évoluer, etc., sur des rôles managériaux ou sur des rôles d'experts. Mais là, on va commencer à travailler sur, par exemple, la mobilité interne. Se dire que aujourd'hui, je suis au marketing, je peux travailler en RH, je suis au produit, je peux aller travailler au marketing, etc. Comment on crée ces passerelles-là. Et donc, du coup, avoir une équipe RH étoffée, c'est aussi pouvoir s'investir sur ces sujets-là.
Et comment vous gérez le fait d'avoir levé énormément d'argent ? Est-ce qu'il y a, du coup, une culture de gens qui disent « Nous aussi, on veut notre part du gâteau », à demander des augmentations fréquemment ? Comment on partage la valeur ajoutée ? Est-ce que vous avez ces questionnements-là autour de vous ?
Il y a beaucoup de pédagogie à faire autour de la rémunération. D'ailleurs, on a évoqué très récemment le sujet. Je pense que personne n'est jamais jamais hyper satisfait de son salaire. On veut toujours un peu plus. Ça fait partie des règles du jeu. Maintenant, c'est comment on arrive à expliquer comment sont construits en fait les choses. Et donc, on apporte un maximum de rationnel en disant, bah voilà, on regarde le benchmark externe. Nous, on regarde, on a énormément de candidats qui sont en process d'entretien. Donc, on récupère aussi de la donnée sur les salaires. Et puis après, on a nos propres règles internes sur si je suis en surperformance, si je change de job, etc. Et donc, ces règles-là, elles sont communiquées aux managers, à tous les
comptoirs. Mais toutes les entreprises qui ont levé énormément d'argent ont ce problème. Ah, vous avez levé des millions. Faire comprendre que c'est de l'argent pour investir, pour avancer, que c'est pas pour faire des fêtes, typiquement, c'est pas toujours simple à faire comprendre.
Je pense pas que les gens en start-up soient plus friands, en tout cas, plus attendent plus en termes de rémunération et salaire. Je pense qu'il y a une réelle inflation sur les salaires parce que il y a offre-demande, situation de plein emploi. Donc en fait, il faut qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu. Le salaire est une réponse, mais pas que. On a parlé de la compto et de la culture. C'est exactement ce qu'on veut essayer de valoriser. Ce qui est sûr, c'est que mon rôle et le rôle des startups, c'est de se dire, ok, comment j'arrive à maîtriser cette inflation, parce que ce serait aussi une réponse facile, finalement, de dire ah bah pas de problème, porte ouverte, nous on paye très 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 bien, bien au-dessus du marché, comme ça on sait que les gens viennent chez nous, mais on pense que c'est pas les bonnes raisons, en tout cas ça fait pas partie de nos valeurs. Donc il faut vraiment garder ce juste milieu entre ce qui est juste par rapport au marché et puis comment les gens vont pouvoir progresser aussi par ailleurs.
Qu'est-ce que vous essayez d'attirer comme talent, ceux qui voudraient aller chez Litchi ou ceux qui sont à la Société Générale et à la BNP et qui s'ennuient?
Alors, on n'a pas de profil type. Nous, on a réfléchi à plutôt à des qualités chez Conto. On appelle ça le persona zéro. Donc, des qualités analytiques, de curiosité, d'ouverture d'esprit, de remise en question. Enfin bref, il y a plein de qualités qui, peuvent se retrouver dans tous les milieux. On est hyper ouvert. Globalement, on a quand même une équipe très diverse, des gens qui ont des parcours très différents des uns des autres. Des gens qui viennent de grands groupes, de start-up. On a 30% d'internationaux, 40% de femmes, d'hommes, enfin je veux dire, globalement la diversité en termes d'expérience, elle est réelle chez Conto et surtout elle est essentielle parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, donc on a besoin d'aller chercher les expertises, notamment dans certaines entreprises qui peuvent être plus grandes, plus structurées, etc. Mais on a aussi besoin de garder cet esprit d'innovation, etc. qu'on retrouve peut-être plus dans les startups.
Et c'est quoi vous, votre défi RH pour 2022?
Je pense que, alors il y en a plusieurs, je pense que vraiment c'est de continuer à construire l'identité de Conto et sa singularité pour pouvoir attirer, mais aussi vraiment retenir, c'est le truc classique des RH, mais retenir nos meilleurs talents. Et ça va passer évidemment par plein de choses. Un des leviers sur lequel on veut vraiment travailler, c'est comment on accompagne nos managers. Parce qu'une des raisons principales de départ dans les entreprises, c'est je suis pas à l'aise, pas bien avec mon manager, je suis pas accompagnée.
On est souvent son chef plus qu'une entreprise.
Exactement. Et donc on sait qu'il faut qu'on mise là-dessus encore plus.
Et qu'est-ce qu'ils ont besoin de quoi, ces managers?
D'être accompagnés sur une partie, ce que nous, on va appeler plus technique. Donc, c'est typiquement la première population qu'on va former sur les méthodologies de travail, donc la Conto-E. Donc, c'est en fait pouvoir donner à son équipe un cadre hyper clair, une vision très claire sur les projets à mener, comment on va y aller, les outils à utiliser. Et en même temps aussi, toute la partie compétences, les soft skills, comme on les appelle, sur je sais donner du feedback, je sais faire grandir les gens, je sais construire des plans de développement.
Vous apprenez vraiment à être manager dans votre vision de ce que c'est que le management aujourd'hui, avec presque des cours de management.
On essaye, on ne fait pas tout en interne, évidemment. Il y a des choses internalisées et il y a des choses qu'on va externaliser parce qu'on n'a pas du tout l'expertise et qu'il y en a qui savent bien mieux faire que nous, ça c'est sûr.
Je vois beaucoup de DRH de votre génération, notamment dans la tech française, travailler presque en open source, à échanger, même parfois certaines dimension stratégique, c'est votre cas? Vous échangez avec les autres DRH?
Oui, énormément. C'est vrai que ça fait vraiment partie de l'écosystème start-up. Je pense qu'il ne faut pas oublier que, dans un premier temps, on est tous clients les uns des autres, c'est-à-dire que nous, par exemple, pour les citer, on utilise Swile, on utilise Payfit, donc il y a plein de startups, on utilise Alan, donc en fait déjà on fait partie de tous du même écosystème et on est clients les uns des autres, donc il y a un vrai respect pour le produit, pour le projet que les uns et les autres sont en train de créer. Et Et clairement, les RH ont vraiment intérêt à partager pour pas réinventer les choses. Et c'est vraiment avec une grande bienveillance que c'est fait. Il y a plein de réseaux, les Slack, énormément de meetings qui
vous
sont organisés.
On se parle très souvent,
tous les jours. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec la DRH de Pefit. Ouais.
On m'a dit donc, ça c'est vraiment un changement pour moi, pour le marché, très intéressant à suivre. Merci beaucoup Sarah Benhalel d'être venue nous voir, DRH de Conto. On va parler de santé mentale et de ces fameuses hotlines.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Business Case.
Et on va parler santé mentale ensemble. On est avec Camille Pêche. Bonjour, vous êtes CEO de Cali Social. Cali Social, c'est du conseil en bien-être en entreprise. Vous gérez des hotlines, les fameuses lignes rouges, entre autres, qu'on appelle quand on va pas bien. 3 millions d'appels par an gérés par vos services. Quand je vous dis vous gérez des hotlines, vous me faites une petite moue pour ceux qui nous écoutent en radio et qui n'ont pas vu. Ça veut dire que le mot hotline vous plaît pas.
Alors, le mot hotline, le mot ligne rouge sont des termes, en fait, qu'on essaie d'éviter d'utiliser parce qu'il y a une mauvaise connotation à ces outils. On a l'impression qu'on va retourner dans le Père Noël est une ordure, qu'on va passer un coup de fil et que derrière il y a un psychologue derrière le bout du fil et puis il va faire quoi ? Rien du tout et puis terminé quoi. Alors qu'en fait c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On a un dispositif qui permet simplement à n'importe quel collaborateur, à un moment où il rencontre une difficulté, de pouvoir solliciter un professionnel de manière totalement indépendante, dans un cadre neutre, anonyme, confidentiel, et de pouvoir, au-delà du simple appel, parce qu'il y a le téléphone, mais il n'y a pas que le téléphone, il y a les applications, il y a les formulaires de contact, etc. Il y a plein de façons de rentrer en contact avec le professionnel, mais derrière, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement spécialisé, d'experts, pour aider un individu à un moment donné de sa vie, que ce soit pour des problématiques professionnelles ou personnelles, pour l'aider à faire face, obtenir des conseils, de l'aide face à une situation. Et c'est un service, en fait, qui a un nom, hein. C'est de la psychologie de l'individu, et on en fait tout le temps. Et dans les entreprises, c'est vrai qu'on a cette connotation hotline, mais ça n'est pas que ça.
Parce que vous savez quelle est la critique qu'on fait hotline. On dit, quand une entreprise ne veut pas gérer le problème en interne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se paye une hotline.
Exactement. Alors que c'est complètement faux. Parce que ça serait trop simple de pouvoir dire, je prends une hotline et finalement, je me déresponsabilise des problèmes de santé mentale de mes collaborateurs. La réalité, c'est que déjà, on ne peut pas régler tous les problèmes de ses collaborateurs. Il y a une zone qui ne nous regarde pas. Je prends la posture du DRH, la posture du dirigeant. Il y a une partie qui regarde l'entreprise, il y a une partie qui ne regarde pas l'entreprise. En offrant ce service à des collaborateurs, on s'assure de leur offrir des bons outils, des bons moyens pour qu'ils puissent prendre soin d'eux. Ça ne veut pas dire qu'on se déresponsabilise, ça veut dire qu'on leur donne des outils. Au-delà de leur donner des outils, il se trouve que ce n'est pas sans engagement de mettre en place des psychologues pour un collaborateur. Quand un psychologue reçoit un collaborateur qui rencontre une difficulté liée au travail, il a un devoir déontologique d'accompagner la situation. Et s'il y a un risque pour l'individu et que c'est causé par l'organisation de travail, c'est notre métier, c'est notre rôle de remonter l'information. Et nos clients sont très heureux de cela parce qu'on leur donne du feedback sur leur organisation, ce qui fonctionne moins bien.
Donc vous voyez presque en conseiller, en appui de l'entreprise, ça vous fait remonter aussi des problèmes que le DRH n'aurait pas vu, par exemple.
Exactement. Des problèmes de situation de dit harcèlement moral, harcèlement sexuel, des problèmes organisationnels, des situations où on a des problèmes de surcharge de travail dans une zone particulière, une transformation qui est mal accompagnée, des comportements qui sont vécus.
Ça, c'est un boulot de manager.
Malheureusement, on peut pas reporter toute la responsabilité au manager et ça fonctionne pas à 100%. Et ces outils sont un canal.
Parce que là, on dirait que vous servez d'audit des problèmes de l'entreprise. Eux voient pas ce qu'il y a, alors quelqu'un de l'extérieur va venir mettre son œil dessus.
Non, parce que alors il y a l'audit. On fait aussi des audits. On accompagne les organisations pour comprendre ce qui se passe. Ça n'a pas vocation d'audit. En revanche, effectivement, on est tous les jours en contact avec des centaines de salariés qui nous expliquent ce qui ne va pas dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Des managers, des dirigeants, des RH, des élus du personnel. Tous les salariés nous appellent tous les jours pour nous dire ce qui ne va pas. C'est une richesse incroyable. Et cette richesse-là, et en plus, on le fait dans un cadre extrêmement intime, extrêmement fermé. On respecte cet anonymat. Mais le feedback que l'on a, cette richesse-là, il faut qu'on s'en serve pour aider les organisations à progresser et être meilleures dans leur façon de fonctionner pour leurs équipes, mais aussi pour leur modèle. Parce qu'une entreprise qui fonctionne bien, qui est fluide, c'est une entreprise qui progresse.
Et donc, vous arrivez à avoir une parole libre du salarié, même si c'est financé par l'entreprise, où il y a toujours cette méfiance ?
Alors, je pense que la méfiance, elle est là, parce que quand on regarde la différence entre les taux de sollicitation des psychologues en France avec les taux de sollicitation des psychologues financés par l'employeur, on a un delta, on matche pas. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça matche pas. Il y a plein de raisons, mais je pense qu'il y aura toujours cette difficulté du financement. Les gens qui nous appellent, eux, en revanche, ont levé cette barrière-là. Il se trouve que certains nous appellent d'abord ou prennent d'abord contact avec nous pour nous demander des renseignements, RGPD, CNIL, financement, clause de déontologie, etc. Mais une fois que cette barrière-là elle est levée, le salarié, il est avec un psychologue, avec un coach, un assistant social.
Il enlève le cadre.
Voilà, le cadre est là et c'est totalement libéré. On fait des accompagnements sur 6 mois parfois hein, de personnes. Donc on va très très loin dans la vie des gens.
Bon, le business a explosé quand même avec la crise sanitaire, les confinements différents. Cette organisation de plus de 1000 salariés sur 10 dispose d'une ligne d'écoute.
Ouais.
C'est-à-dire quasiment tout le monde.
Quasiment tout le monde, ouais.
Qu'est-ce qui convainc comme ça à ce point les entreprises ?
D'être confronté au problème, parce que quand le confinement a doublé le nombre de salariés en état dépressif, on est passé d'une personne sur 12 à une personne sur 6 aujourd'hui.
Un Français sur 4 est en état anxieux sur le dernier mois, un Français sur 6 en état dépressif, un Français sur 10 a eu des pensées suicidaires.
Oui, c'est pas joyeux comme statistique. Hein. Non, ça va pas très très fort. La Covid a eu un véritable impact sur la santé mentale des Français, mais donc des salariés. C'est une réalité. C'est un effet positif somme toute parce que ça nous permet de prendre conscience qu'on a une santé mentale et qu'il faut en prendre soin et qu'elle influe nos comportements, nos émotions. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif...
Ça, c'est nouveau.
C'est nouveau. C'est une prise de conscience. Moi, ça fait 13 ans que j'accompagne...
Rien que le mot santé mentale, on ne l'entendait pas avant dans l'entreprise.
Alors, moi, je l'entendais...
bien-être.
Oui.
Vous êtes un professionnel.
Moi, je l'entendais beaucoup.
Mais moi, j'entendais bien-être. J'entendais pas santé mentale. Ouais. Avec une connotation, d'ailleurs, un petit peu difficile, santé mentale.
Oui, alors après, il y a la casquette française aussi, où voilà, on a des préjugés.
Non, mais il y a la folie derrière, qui fait peur et qui...
C'est vrai, vous avez raison. Et alors qu'en fait, nous, d'ailleurs... on va dire presque 100% des cas qu'on accompagne sont des cas qui ne sont pas adaptés pour aller en hôpital psychiatrique. Hein. Nous, on accompagne des gens normaux, vous, moi, et tout le monde a des états dépressifs qui évoluent, qui montent et qui descendent toute l'année. On a des périodes avec un peu plus de tendance dépressive et on s'en sort. Parfois, c'est un peu plus complexe. Parfois, on cumule les facteurs négatifs. Le premier confinement, ça a été le cas. Le quatrième confinement aussi a été très impactant. Il y a eu plusieurs facteurs négatifs qui se sont regroupés. On est dans une période avec beaucoup de facteurs négatifs. Ça se répercute sur les gens. Et dans ces moments-là, c'est important d'avoir quelqu'un pour nous aider, quelqu'un qui a le temps, quelqu'un qui sait faire, quelqu'un qui met un cadre. C'est pas simple, le manager peut pas le faire, la famille peut pas forcément le faire si elle est là, tout le monde n'a pas de famille. Les collègues, ils ont aussi leurs propres problèmes. C'est un véritable métier et il faut déployer de la ressource pour le traiter parce que quand quelqu'un vient travailler dans un état avec sa santé mentale qui n'est pas au top, ça se répercute sur sa performance, sur sa santé à long terme et sur le collectif en général. Il faut le traiter.
Le gouvernement a annoncé en début de semaine des nouvelles règles, 2 à 3 jours de télétravail quand c'est possible. Et surtout, je dis surtout parce que c'est ça qui marque le plus les salariés qui sont déjà habitués en partie au télétravail. À la fin des moments de convivialité, vous aussi, vous avez annulé tous les pots de fin d'année.
Oui, alors c'est sûr, les équipes sont un peu... On est déçus parce qu'on attend ces moments de convivialité. C'est comme ça que maintenant, on va travailler beaucoup plus avec un travail hybride, avec plus de moments de convivialité pour renforcer l'esprit d'équipe. Donc, ça, tout le monde est impacté. La question du télétravail, je pense que on a 600 clients, c'est plutôt installé. Les boîtes qui peuvent faire du télétravail en font. Donc, j'ai pas l'impression que ce sera ce qui sera le plus impactant. Mais c'est vrai que tous les événements de fin d'année vont pas se faire. Et ça va être dommageable. Et nous, ça va se répercuter aussi avec nos psychologues. Hein. Très clairement, on s'attend à avoir de doubler à peu près les sollicitations des salariés sur la période de Noël.
Ah oui, parce que là, vous voyez, ça refait un coup de mou, quoi, un coup de bâton.
Tout à fait.
Sur le moral, c'est compliqué.
Ah, c'est sûr.
En termes d'âge, vous êtes plus sollicité par des jeunes, par des vieux, par des cadres, par des non-cadres. On dit plus vieux, on dit senior.
Oui. Alors, c'est les seniors, sur les 12 derniers mois, les seniors ont baissé. On a moins de proportionnellement. Alors, on a quand même doublé la sollicitation globalement avec cette situation. Les seniors, moins. Les jeunes, beaucoup plus. Je pense qu'il y a une acceptation chez les jeunes de ces terminologies santé mentale, de prendre soin de soi, de discuter avec un psychologue, avec un coach. C'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté. Donc, les jeunes générations nous sollicitent beaucoup.
Il y a un rapport au conseil qui n'est pas le même.
peut-être aussi le fait d'avoir le droit de demander à l'autre quelque chose, un sentiment de la fierté n'est pas positionnée là. La population la plus touchée, somme toute, c'est la population 35-45 ans. Qui cumulent les effets, on va dire 30-45 ans, qui cumulent les effets familiaux avec les effets travail. Généralement, 30-45 ans, vous avez des cadres qui managent des équipes, qui ont des enfants, et donc ils se retrouvent à devoir jongler entre des vies familiales et des vies de manager. Quoi.
Ça, vous c'est êtes en recrutement très exponentiel, alors peut-être pas autant que Conto qu'on a eu juste avant, mais...
Si, alors on ne fait pas la même taille que Conto, mais on a doublé nos effectifs par rapport à l'année dernière, et on a des perspectives de développement peut-être pas doubler chaque année, mais de forte croissance, effectivement. Ouais.
Bah c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Camille Pêche d'être venue nous voir, CEO de Cali Social. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.